Chapitre 10. Quand Duchâtelier rentra dans le théâtre, Marietta, qui était la curiosité même, se jeta sur lui, tandis que Zite, plus réservée, se tenait un peu en arrière, mais l'oreille attentive cependant, car un pressentiment lui disait qu'on avait dû s'occuper d'elle.
« Eh bien, qu'est-ce qu'il voulait, Ernest Farré ?» demanda Marietta.
« Des affaires, je vous dirai ça tout à l'heure. Laissez-moi me déshabiller. » Même avec ses filles, Duchâtelier était autoritaire. Quand il avait dit une chose, il ne permettait pas qu'on insistât. Ce fut seulement quand on eut éteint les lampes du théâtre et que tout le monde fut réuni dans la roulotte, autour de la table servie, pour souper d'une tranche de veau froid, qu'il parla de cette visite. « Quand je vous répète, commença-t-il, qu'il ne faut jamais lâcher un rôle et qu'on doit jouer toujours comme si la salle était pleine de critiques, vous ne voulez pas m'écouter. Eh bien, voyez ce que c'est que d'avoir donné une bonne représentation d'il y a 16 ans et de la grâce de Dieu. Le hasard a voulu que nous ayons eu ces soirs-là un public intelligent. On a parlé de nous dans les salons de Paris. » Et aujourd'hui, Ernest Farré, qui est quelqu'un parmi les jeunes auteurs, le premier sans conteste, Ernest Farré, forcé par la renommée, est venu assister à notre représentation. Faisant répéter en ce moment un drame en vers à l'Odéon, et n'ayant point les comédiens qu'il lui faut pour les rôles qu'il a écrits, il espérait, d'après ce que le fils Chamontin lui avait dit, trouver son affaire chez nous. Mais, après m'avoir vu dans Gloucester, il a reconnu tout de suite que son rôle n'était point à ma taille, c'est lui-même qui l'a dit. À cela, rien d'étonnant. On ne fait plus de pièces, on ne fait plus de rôles. Alors, il s'est rabattu sur Zite et il me propose un engagement pour elle. Zite n'avait rien répondu à son père, mais au trouble de sa respiration, au tremblement de ses mains, à la pâleur de ses lèvres, il était facile de voir l'émotion qu'elle éprouvait.
« Ma fille à l'Odéon !»
murmura Madame Duchâtelier avec plus de stupeur que de joie. Comme Zite, Joseph n'avait rien dit, mais pour lui aussi, il n'y avait qu'à le regarder pour deviner son émotion.
« L'Odéon ? Oh là là !» dit Stanislas. « Odéon, carton !»«
Veux-tu te taire, gamin ?» répliqua La Chapelle. « On commence à l'Odéon, on finit aux Français. »
« Ou ailleurs ?» répondit Stanislas en indiquant du doigt le plancher de la roulotte.
« Qu'as-tu répondu ?» demanda Madame Duchâtelier d'un ton inquiet.
« Que je réfléchirai, que je verrai et ne me déciderai que sur des propositions fermes qu'Ernest Farré, qui n'est pas directeur, ne pouvait pas m'adresser. Il désire avoir Zite pour sa pièce, mais ce n'est pas lui qui engage. » Seulement, il est bien certain que, dans sa situation, on doit lui accorder ce qu'il demande. Nous allons donc en rouler une de ces canailles de directeurs. Il va avoir affaire à moi. »
Duchâtelier avait eu si fort la haine des directeurs qu'il ne pouvait encore se faire à l'idée qu'il en était un lui-même.
« Tu accepterais ?» demanda Madame Duchâtelier timidement.
« Sans doute, Zite nous est utile, continua-t-il, mais ce ne sont pas les services qu'elle peut nous rendre que nous devons considérer. En tout cas, ce ne sont pas des raisons de cet ordre qui peuvent me toucher, moi. »«
Ce n'est pas à nous que je pense, continua Madame Duchâtelier, c'est à elle, Paris, seule, à son âge. »«
Ne voudrais-tu pas l'accompagner ?»
Apprenez, Madame Duchâtelier, que quand une mère accompagne sa fille au théâtre, c'est pour lui faire pincer. »
« Oh, monsieur Duchâtelier,
est-ce vrai, La Chapelle ?»«
C'est la leçon de l'expérience. »«
Enfin, continua Duchâtelier, nous n'en sommes pas là. Attendons les propositions. Ce qu'elles seront dira ce que nous avons à décider. »
Joseph avait vainement cherché les yeux de Zite. Elle les tenait obstinément tournés vers son père, avec l'intention manifeste d'éviter ce qu'elle sentait poser sur elle. Que pouvait-elle lui dire ? Quand, le souper fini, La Chapelle, Théodore et Stanislas se levèrent de table pour aller se coucher dans la petite roulotte, il fallut bien qu'il les suivît, sans pouvoir échanger un seul regard avec Zite, occupé à enlever le couvert, en mettant à cette besogne de tous les soirs une attention extraordinaire.
« Qu'est-ce que nous allons jouer si Zite nous quitte ?» demanda Théodore.
« Je crois que j'ai quelqu'un pour la remplacer. » « C'est cette chanteuse du Café de la Seine qui est venue nous voir à Chelles.
elle voudrait jouer, beaucoup jouer pour entrer au théâtre, et chez nous, elle trouverait justement son affaire.
C'est comme ça que tu retiens Zit ?
J'aurais mieux aimé la faire travailler encore pendant un an, mais l'occasion qui se présente est trop belle pour ne pas la saisir. Une création. Ils étaient arrivés à l'escalier de leur roulotte, mais Joseph ne les suivait point. Il montait l'avenue à grands pas, se dirigeant vers la campagne.
« Tu ne viens pas, Joseph ?» cria Stanislas.
« Tout à l'heure. » Mais ce « tout à l'heure » se prolongea une bonne partie de la nuit, et ce fut seulement après avoir dormi longtemps que la chapelle, qui avait le sommeil léger des vieillards, l'entendit rentrer. Déjà, dans les poulaillers, les coqs chantaient et des bruits de réveil dans le village annonçaient le matin. Le dernier couché, Joseph fut le premier levé, de sorte que, quand Zit, qui, elle aussi, n'avait guère dormi cette nuit-là, ouvrit sa petite persienne, elle l'aperçut se promenant dans l'avenue. Avant qu'elle eût refermé la fenêtre, il accourut à elle.
« Je voudrais te parler !»
Sans répondre, elle lui fit, de la tête, un signe qui disait qu'elle allait le rejoindre dans le théâtre.
« C'est Joseph !» dit Marietta à moitié endormie. « J'espère que tu vas l'envoyer coucher. En voilà un qui est sciant !»«
Le pauvre garçon !»«
Puisque tu n'en veux pas, tu ferais bien mieux de le lui dire que de le plaindre. Ah, si j'étais à ta place !»
Elle avait lu assez de romans pour savoir comment on se conduit avec l'homme qu'on n'aime pas. Aussi trouvait-elle que sa grande sœur était vraiment bien jeune. Moins ferme dans ses principes que sa cadette, Zit descendit de la roulotte et entra au théâtre. Vivement, Joseph vint à elle.
« Pourquoi tes yeux ont-ils fui les miens hier soir ? » demanda-t-il d'une voix mal assurée. « Tu me parles comme si nous étions ennemis. » Et pourtant, je t'assure que je n'ai jamais senti, comme en ce moment, combien est vive mon amitié pour toi.
C'est donc que tu es décidé à partir, que tu t'attendris sur moi?
Tu t'imagines que nous sommes mariés et que, si je fais quelque chose sans que tu y sois associé, je commets un crime envers toi.
Je t'aime et tout ce qui blesse mon amour me fait perdre la raison. « Veux-tu que je reste calme quand je vois que tu vas partir, que nous allons être séparés ? Tu ne m'aimes pas, je le sais, mais moi je t'aime, et c'était du bonheur pour mon amour de te voir, de t'entendre, de vivre de ta vie. Si j'étais triste quand nous n'étions pas ensemble, quand je te voyais, toute tristesse était oubliée, je ne réfléchissais pas, je ne pensais pas, je te regardais. » Et maintenant, nous ne serons plus ensemble jamais, je ne t'entendrai plus, je ne te regarderai plus. N'admets-tu pas que tout en moi se révolte contre cette séparation ?
Je t'assure que je te plains de tout mon cœur.
Tu me plains, mais tu pars.
Puis-je refuser l'occasion qui se présente et qui m'ouvre la vie, la gloire peut-être ?
Qui se présente ? Tu crois donc qu'elle se présente spontanément ? Me diras-tu que tu le crois ?
« Assurément, je le dirai. »
Il hésita un moment. « Et Monsieur Chamontin » dit-il tout à coup sans lever les yeux.
« Que vient faire Monsieur Chamontin ?
N'est-ce pas lui qui a parlé de toi à Faré ?
Quand cela serait ?
Cela est, tu le sens bien. C'est pour t'avoir à Paris qu'il se fait engager à l'Odéon.
« Oh, Joseph, comment ne m'as-tu pas épargné ces dures paroles et ne me laisses-tu pas la joie de croire, la fierté, que si l'on m'engage à l'Odéon, c'est parce qu'on juge qu'il y a une comédienne en moi ? Parce que tu m'aimes, est-ce une raison pour me blesser, pour me peiner ?
Je sais bien que je suis un maladroit, un imbécile, mais ne va pas croire au moins qu'il y a de la méchanceté dans mes paroles. Regarde-moi et vois si je n'ai pas la tête perdue. Pardonne-moi. » « Je t'ai dit que je n'ai jamais senti comme en ce moment combien était vive mon amitié pour toi. Tes paroles, si cruelles qu'elles soient, ne nous fâcheront pas. Parce que je serai à Paris, M. Chamontin ne m'aura pas plu, comme tu dis, qu'il ne m'aurait ici. Tu sais bien que si je vais à Paris, ce ne sera pas pour faire la fête, mais que ce sera pour travailler, pour gagner un nom, une réputation. » Au théâtre, il n'y a de bien défendu que celles qui se défendent elles-mêmes, et à Paris, je serai aussi bien défendue par moi toute seule que je le serai ici par vous. Alors, c'est bien décidé, tu pars ?
je n'en sais pas plus que toi.
Enfin, si ton père accepte, tu consens à partir.
Puis-je faire autrement ?
À ce moment, la porte s'ouvrit et Marietta cria.
« Zit, maman t'appelle !»
Zit rejoignit sa sœur, tandis que Joseph disparaissait dans les coulisses.
« Qu'est-ce qu'on me veut ?» demanda Zit à Marietta.
« Rien, c'est pour te débarrasser de Joseph. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Je suis sûre qu'il te sciait pour t'empêcher d'aller à Paris. »
« Il y a un peu de ça.
J'espère que tu l'as remise à sa place. Il est trop bête.
Tu serais contente si j'allais à Paris ?»«
Je crois bien. Tu me ferais entrer au conservatoire. »
De son côté, Madame du Châtelier n'avait guère mieux dormi que Zit. Mais tandis que c'était l'émotion de l'espoir qui tenait sa fille en éveil, c'était le chagrin et l'inquiétude qui enfiévraient la mère. Bien qu'on eût plus d'une fois agité cette perspective d'un début de Zit à Paris, ce n'avait jamais été qu'en l'air. Maintenant, le danger éclatait, ce n'était pas dans un avenir plus ou moins éloigné que la séparation s'opérerait ou ne s'opérerait pas, c'était le lendemain même qu'elle pouvait avoir lieu. Quelle angoisse pour elle! Si elle ne connaissait, par expérience, que son théâtre où l'on vivait en famille avec une régularité bourgeoise, au moins pour les mœurs, que d'histoires effrayantes sur les mœurs des coulisses n'avait-elle pas entendu raconter par les comédiens de la troupe depuis 20 ans? C'était dans cet enfer que sa fille allait entrer, et seule encore, sans personne pour la guider ou la soutenir. Comment se dirigerait-elle au milieu de ce monde où l'on ne fait point un pas sans se heurter à la jalousie, à l'envie, où les embûches vous enveloppent, où les tentations vous guettent? Sur quelque sujet que se portât son esprit, elle ne voyait que des dangers. Et c'était avec le serrement de cœur du remords qu'elle se demandait ce qu'elle avait fait pour armer sa fille contre eux. Quand elle chassait ses idées en pensant à la vaillance de sa fille, c'était pour se laisser prendre aussitôt par d'autres qui, bien que jusqu'à un certain point secondaire, n'en apportaient pas moins avec elle un sentiment d'anxiété. Comment Zit irait-elle à Paris ? Quelle toilette mettrait-elle ? Quel trousseau pourrait-on lui composer ? C'est qu'elle était vraiment bien simple, la toilette journalière de Zit, qui, depuis son enfance, avait vécu dans la roulotte où elle n'avait pas besoin de s'habiller. De même que bien mince était son trousseau. Comment mettre de l'argent à des robes ou à du linge quand on n'en a jamais assez pour les dépenses du jour présent et les vieilles dettes ? Et puis, il y avait si peu loin de la roulotte au théâtre que ce n'était vraiment pas la peine de s'habiller. À la vérité, elle avait bien une robe de ville qui lui servait, toujours la même, dans les pièces modernes, mais par une fatalité du sort, c'était une robe d'été. Comment, au mois de février, s'en aller dans les rues de Paris, habillée de foulard, coiffée d'un chapeau rose et chaussée des souliers garnis de fourrure, offerts par Permettez ? La toilette n'était pas tout. Il y avait encore le linge qui présentait des difficultés non moins grandes. Aussitôt levée, elle ouvrit ses tiroirs et passa la revue de ce qui était à peu près mettable. Mais rien n'était vraiment mettable. Il avait été si souvent lavé, ce linge. Il avait si longtemps traîné pour sécher sur les haies ou les fossés des routes. Cependant, elle trouva encore quelques chemises, quelques cols, quelques mouchoirs mis au rancard parce qu'ils avaient besoin de reprise et qu'on n'avait jamais eu le temps de les réparer. Le moment était venu de trouver ce temps et, toute la journée, elles s'employèrent toutes les trois à ce travail au grand désespoir de Joseph qui rôdait autour de la roulotte, espérant toujours qu'un bienheureux hasard lui permettrait d'échanger quelques mots avec Zit. Il avait tant de choses à lui dire qui ne lui étaient pas venues le matin, mais qui, maintenant, jailliraient sans que rien pût les arrêter. Comme le soir tombait, Zit vit le facteur du télégraphe paraître au bout de l'avenue et elle courut au-devant de lui, ne doutant pas que la dépêche ne vînt de l'Odéon. « Tu vois qu'elle a des ailes !» dit Duchâtelier à sa femme, qui soupira. Déjà, elle remontait l'escalier de la roulotte, la dépêche à la main. Duchâtelier la prit et l'ouvrit. « Directeur Odéon attendra demain midi M. Duchâtelier et sa fille. Urgence. Faré. »« Urgence !» s'écria Duchâtelier. « Urgence ! On va les rouler, ces canailles !»
et pendant 10 minutes, il raconta des histoires sur ce que ces canailles lui avaient fait souffrir dans sa jeunesse. Comme il tombait une pluie froide, tout le monde était réuni dans la roulotte, autour du poêle sur lequel mijotait le dîner. Son mari ayant pris un moment de repos, Madame Duchâtelier tâcha de dire un mot de ce qui l'angoissait. « Tout cela est superbe, mais en attendant, Zit n'a pas de robe pour aller demain à Paris. »« Eh bien, je lui en achèterai une. Il ne faut pas qu'elle paraisse devant un directeur sans être convenable. Ce ne serait pas un moyen de le rouler. Il nous exploiterait s'il voyait que nous avons besoin de lui. » Jamais Duchâtelier n'était embarrassé par les questions d'argent et sa première parole était toujours « C'est bien, je m'en charge. » Madame Duchâtelier, qui tenait la caisse, savait à 2 sous près ce qu'elle contenait. « Je n'ai que 53 francs, dit-elle tout franchement et sans honte, n'ayant pas à se gêner devant ses comédiens qui connaissaient la situation presque aussi bien qu'elle. « Si 27 francs peuvent vous être utiles, dit La Chapelle, je les ai justement. » Et il mit la main à sa poche, mais Joseph lui arrêta le bras. « J'ai 100 francs, s'écria-t-il. » Zit, ému par ce cri, lui jeta un regard attendri. Duchâtelier tendit la main à Joseph. « Merci, j'espère que les 27 francs de La Chapelle suffiront. Si j'accepte son argent plutôt que le tien, c'est que les débuts de Zit vont faire la gloire de La Chapelle. » « Cela m'aurait pourtant bien fait plaisir que vous acceptiez cet argent, » dit Joseph tristement. « Tu comprends, c'est en quelque sorte un droit pour La Chapelle. Et puis, nous n'allons pas faire de folie. » Ce n'est pas chez un couturier de la rue de la Paix que je vais habiller Zit. J'ai une ancienne camarade de Montmartre qui s'est établie marchande à la toilette rue de Provence. Elle la fera belle des pieds à la tête au plus juste prix. Nous ne sommes pas des gens à préjuger, Dieu merci. Toute la soirée, on ne parla que de début, mais pas de ceux de demain, de ceux d'autrefois, du bon temps. Quand Duchâtelier se taisait, La Chapelle reprenait. Il est vrai que Duchâtelier se taisait peu. Quant à Madame Duchâtelier, à Zit et à Marietta, elle travaillait à remettre en état une vieille robe en alpaga, ainsi que le chapeau marron dont la mère se parait le dimanche pour aller à la messe. Marietta, à qui une bonne âme avait donné un manteau trop large pour son pauvre dos de chat écorché, le prêterait à sa sœur. La soirée se prolongea tard, car il y avait terriblement affaire à la robe et aussi à la redingote de Duchâtelier, qui, encore bonne au théâtre, était bien avancée à la ville. Minuit avait sonné à l'horloge de la commune quand on s'alla coucher. L'omnibus du chemin de fer passait devant l'avenue à 8 heures. Dès 7 heures, Zit était prête. Quand on entendit la trompette, toute la troupe accourut dans la rue. En tendant la main à Joseph, Zit sentit qu'il lui glissait un petit papier roulé. Le cocher abrégea les adieux. « Bonne chance, bonne chance !» Les souhaits de Madame Duchâtelier furent coupés par les larmes. C'était la première fois que sa fille la quittait. À la gare de Nogent, pendant que son père prenait les places, Zit put dérouler le papier que Joseph lui avait glissé. Il contenait un billet de banque de 100 francs avec 3 lignes. « Que ton amitié me fasse la grâce, chère Zite, d'accepter ce billet. Je veux, moi aussi, avoir ma part dans tes succès. »